Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans Culture d'Islam, après quelques semaines d'interruption, pour un livre de Reza Moghaddassi qui a pour titre, pour beau titre, « La soif de l'essentiel ». Reza Moghaddassi est un professeur de philosophie de Strasbourg. Nous nous retrouvons donc avec lui dans un instant, mais vous le savez, vous en avez l'habitude, la bonne habitude, il n'y en a pas que des mauvaises. Nous commençons avec de la musique et nous commençons avec les Mounchid d'Alep. Alep, une ville de Syrie, c'est tout exprès que j'insiste un peu sur les musiques de Syrie. On en a déjà parlé il y a quelque temps, par solidarité avec ce peuple syrien martyrisé, doublement martyrisé aujourd'hui, aussi bien par l'ignoble Bachar el-Assad que par Daesh. Un classique, un chant de louange au prophète, je cite « Ô envoyé de Dieu, toi dont les bienfaits sont exaltés, tu es vraiment le sceau des prophètes, le khatm. En toi mon extase s'est accrue, fils de l'honnête serviteur de Dieu, passeur des peuples, accorde-nous ta protection, Dieu t'a consacré le salut et la paix. » On entend au cœur de ce cœur des Mounchid d'Alep la voix de Hassan Affar, le maître de ces Mounchid. Bonjour à tous, Culture d'Islam, on est sur France Culture et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Reza Moghaddassi. Bonjour Reza Moghaddassi.
Bonjour, bonjour Abdennour Bidar, bonjour aux éditeurs de France Culture.
Alors je vous présente à nos auditeurs justement, vous êtes agrégé de philosophie, c'est une matière que vous enseignez au gymnase Jean Sturm à Strasbourg. Qu'est-ce que c'est le gymnase Jean Sturm à Strasbourg?
C'est une grande institution qui se trouve sur le lieu où enseignait jadis Maître Eckhart, couvent des Dominicains. Depuis, une école a été fondée par Jean Sturm, un protestant, et qui a duré jusqu'à maintenant, qui est l'ancêtre de l'Université de Strasbourg.
Voilà, une grande noblesse donc du lieu, une noblesse historique du lieu dans lequel vous enseignez.
Oui, c'est un honneur d'enseigner là.
Ah oui, j'imagine. Hein, quand on enseigne à l'ombre de Maître Eckhart, la pression et puis l'inspiration aussi sont immenses, hein, potentiellement.
Oui, c'est clair que c'est un auteur qui a compté pour moi.
Oui, d'ailleurs, vous le citez dans le livre. Alors ce livre, je vais en parler dans un instant. Vous êtes formé non seulement à la philosophie occidentale, mais aussi passionné par les philosophies orientales.
Hein, Tout à fait.
Et vous intervenez également à l'Institut d'études politiques et à la faculté de philosophie de Strasbourg. Donc vous enseignez beaucoup.
Oui, c'est mon métier.
Alors je vous reçois aujourd'hui pour un livre qui a un titre simple et profond, La soif de l'essentiel, sous-titré « Qui n'a pas rêvé d'une vie meilleure ». Alors, nos auditeurs vont comprendre, c'est aux éditions Marabout, pardon, c'est en 2016, nos auditeurs vont comprendre peut-être un petit peu mieux la raison pour laquelle je vous invite en lisant avec moi ce que vous dites à la fin du livre. Alors, je vous cite. « Parce que nous sommes toujours des hommes de quelque part, nous cherchons à appréhender l'essentiel » à travers les formes prises par notre culture et notre histoire personnelle, notre tempérament ou notre sensibilité. Ce livre porte ainsi la marque de mon histoire. Son ambition n'est pourtant pas de décrire ni de faire l'apologie d'une voie singulière qui conduirait à l'essentiel et qui serait la mienne. D'abord parce que c'est une exigence de la raison en général et de la philosophie en particulier que de chercher à saisir des vérités universelles. Ensuite, parce que mon histoire m'évite de rester focalisé sur un seul des visages que peut prendre le chemin vers l'essentiel, aussi éclatant soit-il. Je suis en effet le fruit, dites-vous, comme de plus en plus de personnes aujourd'hui, de la rencontre entre des mondes différents, l'Iran et la France, le monde musulman chiite et le monde chrétien, une société qui a gardé certains traits d'une société traditionnelle et une société résolument moderne, un monde citadin et aristocratique et un monde simple et paysan, une capitale et une province. Et dites-vous, cette rencontre entre vos deux cultures, cette rencontre fut à la fois riche et déchirante, un éblouissement, mais aussi un écartèlement. Et c'est cette double dimension de l'expérience de ce que vous êtes et de là d'où vous venez qui, dites-vous, m'a conduit en tous les cas à rechercher ou à chercher ce qui rassemble au-delà de ce qui divise, à construire des ponts au-dessus des murs. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Ouais. Et c'est exactement le sentiment qu'on a en vous lisant. Donc je peux vous dire que de ce point de vue-là, l'intention est réussie et j'espère que beaucoup de nos auditeurs feront la même expérience en lisant votre livre. C'est-à-dire que ce qui frappe à la lecture de votre livre, c'est la capacité que vous avez à mobiliser une pluralité d'auteurs, de pensées qui viennent de cultures très différentes, a priori les unes des autres, des cultures humanistes d'Orient et d'Occident. Vous citez aussi bien Rumi ou Saadi que Lanza del Vasto, Angelus Silesius, Rabindranath Tagore, etc., Pierre Rabhi, François d'Assise. Et je voudrais donc que dans un premier temps, vous nous explicitiez un petit peu, justement, comment vous êtes passé, probablement, d'une situation d'écartèlement hein, entre des influences culturelles à cette capacité que vous manifestez dans le livre de façon très belle, très éloquente, très convaincante, à nous parler de la soif de l'essentiel, c'est le titre du livre, à partir d'un tel mélange, et je ne le dis pas de façon négative, hein, mais tout à fait féconde, à partir d'un tel mélange qui est devenu chez vous naturel, hein, comme toute grande culture qui est parfaitement intégrée, de ce mélange entre des références venues de tous horizons. Comment est-ce qu'on en arrive là, Reza Moghed Dassi ?
Alors, comme vous le lisiez tout au début, je suis un homme de quelque part et c'est vrai que je suis né en Iran, dans une famille pieuse, à la fois traditionnelle mais ouverte sur la modernité. Et la première rencontre avec ce monde, ça a été d'abord avec le musulman chiite. Mais comme ma mère est française, mes parents se sont rencontrés en Angleterre mais qui sont venus d'abord vivre en Iran, eh bien, j'avais ce pied aussi en lien avec la France, la langue française. Et lorsqu'il y a eu la guerre en Iran et qu'avec ma famille nous sommes arrivés en France, je suis passé du monde traditionnel chiite à un monde rural de normands chrétiens. D'un côté de ma famille, on n'aurait pas pensé manger du porc, de l'autre, on se régalait en mangeant du saucisson, et même mon oncle français est éleveur de porc. Et symboliquement,
donc, ce sont les tribulations héroïques d'un Iranien normand. Hein.
Voilà, c'est ça. Et j'ai grandi en France. Grandir en France, ça a été à la fois grandir dans une société qui était, je ne peux pas dire vraiment encore chrétienne, bien entendu, il y a des poches de christianisme, mais qui, pour une grande part, a tourné le dos aussi à sa tradition, à la grandeur de la tradition chrétienne. Et donc, ayant d'abord été dans l'école laïque, j'ai été nourri, d'athéisme ou d'agnosticisme. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai grandi. Néanmoins, le lien avec l'Iran s'est fait beaucoup à travers la poésie mystique persane, puisque mon père, comme beaucoup d'Iraniens de cette génération, est imbibé de poésie.
Qu'il vous a donc transmise depuis que vous êtes enfant, à travers peut-être des récitations, comment est-ce que ça se passait concrètement ?
Voilà, et bien les récitations sont permanentes et continuelles, de manière impromptue, à n'importe quel moment, au milieu d'un repas, le soir avant de se coucher. Les Iraniens connaissent par cœur des passages entiers des grands poètes nationaux, que ce soit Hafez, que ce soit Rumi. Alors, ce qui est très difficile à se représenter pour nous en France, c'est que ce sont à chaque fois des poésies d'une grande spiritualité, d'une grande profondeur métaphysique, qui peuvent être comparées davantage, je ne sais pas, à des poésies de Saint-Thérèse de d'Avila ou de Saint-Jean de la Croix.
Et ce qui est très frappant, c'est donc l'harmonie entre une culture savante et une culture populaire, ou l'infusion d'une culture savante dans la culture populaire. Et d'une culture spirituelle ou d'une culture qui parle de la transcendance, qui est infusée, puisque ces récitations pouvaient survenir à n'importe quel moment de la journée, dans le cours même de la vie profane, entre guillemets.
Tout à fait. Et puis lorsque vous êtes enfant, que vous voyez des gens prier, eh bien, vous avez le spectacle devant vous d'un contact entre l'homme et l'invisible, entre l'homme et une transcendance, et ça vous interroge, parce que ça ne renvoie pas à ce qui anime généralement les sujets de discussion dans une cour de récréation ou les résultats sportifs ou le culte de la puissance. Et donc j'ai toujours gardé ce lien très, très intime avec l'expérience spirituelle, le rapport à une transcendance, même si pour le jeune homme que j'étais, jeune adolescent que j'étais, il a fallu essayer de penser des ponts entre ces deux, à la fois entre la tradition et la modernité, et puis à la fois entre l'islam et le christianisme.
Alors, vous y réussissez bien. J'espère qu'on aura le temps, et on va prendre le temps d'en donner un certain nombre d'exemples, hein, en citant un certain nombre de vos références prises en dehors donc du champ iranien et plus largement en dehors du champ islam. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, c'est que on dit souvent à propos des individus qui sont issus d'une immigration, qu'ils ne sont ni d'ici ni de là, et que finalement ils ne sont de nulle part. Moi, c'est l'impression inverse que j'ai eue en lisant votre livre, c'est-à-dire que vous êtes d'ici et de là, et au lieu d'être de nulle part, vous êtes de partout. Hein. Ça m'a fait beaucoup penser à une phrase qui est célébrissime dans l'histoire du soufisme, hein, peut-être la phrase la plus connue d'Ibn Arabi. Ibn Arabi qui disait « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes ». Et j'ai eu le sentiment que ce qui, dans la bouche d'un mystique du XIIIe siècle, correspondait à l'expérience exceptionnelle de quelques individualités, hein, ces individualités mystiques et prises de vérité, et puis surtout soucieuses de passer au-delà des différences entre les formes et d'aller chercher un universel. J'ai l'impression que d'une certaine façon, à travers des parcours comme le vôtre aujourd'hui, il y a là une expérience qui cherche à se démocratiser. Parce que du fait même que, comme vous le dites, hein, dans le passage que j'ai cité, nous sommes de plus en plus nombreux. Hein. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui sont le résultat de la rencontre entre des mondes différents. Eh bien, ce qui était autrefois le lot privilégié de quelques mystiques particulièrement exigeants, soucieux de dépasser les divisions extérieures de forme, d'une certaine façon, peut être donnée aujourd'hui à des personnes hein, comme vous, qui est amenée naturellement, enfin naturellement, mais alors à la condition, bien sûr, d'une certaine ouverture d'esprit, d'une certaine éducation, etc., à faire se rencontrer les formes.
Alors c'est vrai que les traditions religieuses et les sociétés ont une tendance naturelle, comme les individus, à être un petit peu égocentriques et se replier sur la beauté de leur propre tradition. Et à l'heure de, à la fois de la mondialisation, de la rencontre des cultures, des mariages interculturels et interreligieux, il est clair que la rencontre de cette différence religieuse, la rencontre d'un autre langage pour parler de l'absolu et de la transcendance, invite chacun à réinterroger sa propre tradition. Il ne s'agit pas du tout pour un chrétien, pour un musulman, pour un bouddhiste de se convertir à autre chose. Mais il s'agit, à travers la rencontre de l'autre, eh bien, d'approfondir des aspects ou des dimensions, sa propre tradition, qui n'ont peut-être pas été suffisamment approfondies ou creusées. Alors, et pour moi, dans mon expérience, vraiment, cette manière dont la référence chrétienne, la référence musulmane, et on pourra en parler également, la référence bouddhiste, ont pu s'interpeller et se croiser, m'a permis d'approfondir et de creuser voilà, les enseignements que je pouvais recevoir à travers chacune de ces traditions.
Alors, je vous cite encore, vous dites, à cet égard, « Outre des penseurs et des philosophes, les enseignements des évangiles et les mystiques persans d'abord, mais aussi, parce qu'il n'y a pas que nos racines qui nous irriguent, les grands maîtres tibétains m'ont inspiré. » Et alors, ce que je trouve particulièrement important, et je voudrais le souligner pour le rendre bien explicite, c'est que, certes, grâce à ces lectures et à ces inspirations prises en dehors de votre tradition d'origine, vous avez été amené à réinterroger celle-ci, mais également à vous en évader. Et à vous en émanciper, hein. C'est-à-dire que je vous dis ça parce que souvent on entend aujourd'hui les musulmans sommés un peu de toutes parts de réinterroger leur tradition, de réformer leur tradition, etc. Mais d'une certaine façon, comme si on les assignait encore et toujours à ne réfléchir qu'à l'intérieur de cette tradition, quand bien même on aurait fait l'effort de la renouveler, de la régénérer. Et vous nous proposez par rapport à ce schéma un peu stéréotypé, une espèce de sortie par le haut, hein, c'est-à-dire, oui, réinterroger sa propre tradition, mais pas seulement au service de celle-ci, mais au service de la constitution entre nous tous, sans frontières, d'un langage spirituel commun.
Tout à fait. Alors, si j'essaie de mettre dans l'ordre un petit peu la manière dont les choses sont passées, c'est qu'à la fois, comme je le disais, j'ai rencontré la beauté de l'islam, la beauté de son symbolisme, de ses pratiques, les effets, la manière dont voilà, l'arbre pouvait porter beaucoup de fruits, dans la bonté des gens que j'ai pu rencontrer, dans une piété profonde et très riche d'un point de vue humain et spirituel. Et pareil du côté du christianisme, mais en même temps, j'ai rencontré la bêtise religieuse, la manière dont la religion peut parfois n'être qu'un simple refuge identitaire, l'ignorance et la défiguration mutuelle lorsqu'il s'agit de parler de l'autre. Oui. Alors, deux anecdotes. Et après, j'en viens à la rencontre avec le bouddhisme. D'abord, première anecdote.
Tout à fait, deux anecdotes. Donc, Reza Moghadassi, je rappelle simplement le titre de votre livre, La soif de l'essentiel. Hein, on va parler beaucoup de cette soif, La soif de l'essentiel chez Marabout. Donc, deux anecdotes.
Donc, d'un côté, lors d'un voyage à Mashhad, dans une grande ville sainte de l'Iran, je rencontre un jeune musulman chiite qui me dit « Mais tu viens de France, il y a des chrétiens là-bas, oui, c'est la religion qui est quand même la plus dominante historiquement. » Et il me dit « Mais tu sais que c'est quand même incroyable parce que les chrétiens, même dans leur messe, ils boivent du vin. » Voilà, cette anecdote pour moi était assez symptomatique de cette incompréhension. L'autre pareil, en France, combien de fois j'ai pu avoir comme ça des expressions, des malentendus. Alors on pourrait prendre le terme de soumission qui est devenu très péjoratif dans la langue française. Et comme on traduit islam par soumission, eh bien à chaque fois on utilise ce terme pour essayer de renforcer une image préconçue qu'on se fait de cette religion. Alors que soit on pourrait changer de mot, si on parle d'abandon à Dieu, voilà, dans la tradition chrétienne, l'abandon à Dieu, l'abandon à la volonté divine, c'est quelque chose qui n'est pas péjoratif. Oui, ou bien, si on le prend littéralement, se mettre en dessous, c'est ce que fait tout croyant, c'est ce que fait toute personne qui est sur une voie spirituelle. Mmh. Il se met en dessous de quelque chose qui est sacré. Alors, voilà. Maintenant, la rencontre avec le bouddhisme, c'est fait comment? Parce que ce qui vient nourrir une vie spirituelle, c'est la rencontre d'êtres humains. Et les circonstances de mon existence ont fait que, même si j'avais rencontré dans le monde familial, de mon enfance, aussi bien que dans le monde chrétien, des êtres bons et doux et avec plein de qualités humaines, néanmoins, j'avais jamais rencontré des grands maîtres spirituels. Mmh. Et il se trouve que le hasard de l'existence, ou je sais pas, moi, la providence,
c'est peut-être la même chose.
Voilà, c'est peut-être la même chose. Eh bien, a fait que j'ai rencontré sur mon chemin des grands maîtres tibétains venus enseigner en France à la fin des années 80 et au début des années 90. Et cette rencontre avec la sagesse, cette rencontre avec des êtres qui incarnaient de manière vivante, mmh, ces vérités spirituelles dont j'étais irrigué à travers toute la poésie mystique persane, qui m'émerveillait à travers la figure du Christ dans les évangiles, eh bien, cette rencontre a été déterminante pour moi. C'est ce qui a fait de moi un amoureux de la sagesse, c'est ce qui m'a tourné aussi du côté de la philosophie, mais tout en créant une sorte de clivage, parce que d'un côté, en suivant l'enseignement de ces grands maîtres tibétains, encore une fois, qui transmettaient davantage par leur qualité d'être que par leurs exposés doctrinaux.
Bien sûr, bien sûr.
Eh bien, mon chemin à travers la philosophie a été un petit peu difficile, parce que lorsque j'allais recevoir l'enseignement de la philosophie à travers l'université française, voilà une discipline qui s'appelait l'amour de la sagesse, et or je n'y rencontrais ni amour ni sagesse, mais parfois un long ennui. Alors, j'ai rencontré des grands intellectuels, j'ai eu des professeurs
sévère,
brillants.
Vous êtes sévère, mais je vous comprends.
Voilà. J'ai rencontré des gens très brillants d'un point de vue intellectuel, mais qui n'inspiraient pas cette sagesse, voire qui avaient carrément, au nom d'une certaine pseudo-lucidité, tourné le dos à toute métaphysique, tourné le dos à toute direction spirituelle et toute optique de sagesse même. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était une déchirure qui a failli me faire quitter le monde de la philosophie. Heureusement, la rencontre des grands philosophes de l'Antiquité, des philosophes médiévaux, et notamment la rencontre de la philosophie néoplatonicienne, a permis pour moi de retrouver cet universel que j'ai recherché à travers la philosophie, à faire des ponts entre ce que je pouvais décrire dans les doctrines indiennes, bouddhistes, dans la mystique islamique ou bien dans la mystique chrétienne. Et voilà.
Et à mettre en évidence toutes ces résonances. Alors, ce que je voudrais signaler, et qui m'a beaucoup frappé dans le livre, c'est que la critique que vous venez de conduire là, à travers les anecdotes que vous nous avez racontées, est double. Première critique de la méconnaissance de la culture de l'autre, hein, qui va souvent de pair, hélas, avec une méconnaissance, voire une ignorance parfois crasse, de sa propre culture et des propres trésors spirituels de sa culture, lorsque la religion devient une mécanique et un ensemble de stéréotypes sur lesquels l'individu ne s'interroge pas. Donc ça, c'est une première critique. Une deuxième critique est celle que vous venez de faire je pense qu'on peut l'exprimer à travers ce mot, du rationalisme desséché et desséchant d'une certaine philosophie occidentale moderne. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est que cette dimension critique est conduite de façon très élégante. Très élégante, c'est-à-dire que vous ne partez pas en guerre. Hein. Vous ne partez pas en guerre, vous n'êtes pas ni dans le ressentiment, ni dans l'attitude du donneur de leçons. Vous dites les choses de façon beaucoup plus positive que négative, c'est-à-dire en montrant ce qu'il peut y avoir d'autre. Et en faisant donc droit à une expérience que vous essayez progressivement, au fur et à mesure du livre, de qualifier, parce qu'elle est sans doute difficile à définir, mais vous essayez de la qualifier, cette expérience, qui manque aussi bien du côté de l'ignorance religieuse que du côté du rationalisme philosophique. Et cette expérience, vous commencez par l'appeler une soif intérieure. C'est un livre, d'où le titre d'ailleurs, hein, La soif de l'essentiel, mais avant même d'employer la notion d'essentiel qui est peut-être un peu abstraite, vous dites... Ce qui caractérise l'être humain, alors là on revient au début de votre livre, hein, vous commencez par là. Ce qui caractérise l'être humain, c'est une soif intérieure, virgule, qui demande à être entretenue. Et j'aimerais que vous nous commentiez les deux, parce que le « qui demande à être entretenu » va faire l'objet ensuite du livre.
Oui, tout à fait. Alors, dès que l'être humain lève le tête du guidon de sa vie, dès qu'il prend un peu de recul, il arrive très souvent qu'il fasse l'expérience que... Eh bien, il ne donne pas pleinement tout ce qu'il a donné, il ne reçoit pas pleinement tout ce qu'il a à recevoir dans cette vie, et qu'il est loin du compte. Et c'est ce que j'appelle la soif de l'essentiel, c'est d'abord cette aspiration à une vie plus profonde, cette aspiration à une vie plus large, moins mesquine, plus sincère, plus vraie. Alors, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, si par le passé et encore aujourd'hui, la sensibilité religieuse a son propre vocabulaire pour dire cette soif, en parlant de soif de Dieu ou de soif de nirvana ou de soif, l'homme moderne non religieux ou qui a tourné le dos à tout mode d'expression religieuse continue, parce que on est des êtres humains, à être habité par une soif intérieure. Et il va plutôt l'exprimer à travers des termes comme voilà, soif d'une vie plus véritable, soif d'infini, voilà. Alors j'ai utilisé ce terme de l'essentiel pour regrouper toutes ces différentes expressions. Sachant que ce qui m'a frappé d'emblée, c'est que si on demande à quelqu'un, bon, t'as soif de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire la soif de Dieu? Eh bien, la personne commence à bafouiller. Moi-même, si on me demandait, je commencerais à bafouiller. J'aurais du mal à exprimer exactement ce que c'est cette soif. On se sent appelé à un grand voyage, mais on ne sait pas exactement de quel voyage on parle. Et si on demande à quelqu'un, mais c'est quoi la vie plus véritable? C'est quoi avoir une vie plus profonde? Il aura pareil, une sorte de. Ça va commencer à devenir un petit peu flou. Mais voilà, je le dis dans mon livre, c'est peut-être flou, mais c'est pas fou.
Alors, voilà. quand c'est flou et que c'est pas fou ou que c'est un petit peu fou quand même, on a la poésie. Hein. On a la poésie. Souvent, les poètes étaient des fous qui réussissaient à mettre du clair là où les autres ne peuvent mettre que du flou. Et on a Saadi, par exemple, hein, que vous citez, grand poète persan Saadi. Hein, c'est dans un recueil intitulé Le Jardin des Roses, qui dit cette chose toute simple pour évoquer la soif de l'essentiel. Et si pour toute richesse il ne reste que deux pains, vends-en un, et avec ces quelques deniers, offre-toi des jacinthes pour nourrir ton âme. Et vous dites pourquoi des jacinthes? Parce que la nature est un lieu privilégié où l'homme fait l'expérience de la beauté. Donc, quand bien même nous aurions des besoins primaires impérieux, quand bien même nous aurions beaucoup de soucis du côté de l'avoir et du côté du paraître, il y a des besoins qui nous attendent du côté de l'être, qui nous convoquent du côté de l'être, et à nous justement de les, comme vous le dites au départ, hein, de les entretenir, c'est-à-dire de les cultiver, pour que cette soif ne disparaisse pas. Hein, c'est-à-dire que c'est le paradoxe d'une soif qui disparaît quand elle n'est pas étanchée, d'une certaine façon.
Oui, hein. Tout à fait. Ce qu'il faut dire, c'est que cette soif, elle naît ou elle est réveillée dans notre existence, qu'on soit dans une société traditionnelle avec une éducation religieuse ou qu'on soit dans une société plus moderne et qui a tourné le dos à une expression religieuse, elle est d'abord le fruit d'une expérience qui est l'expérience très concrète de la beauté, de la bonté des êtres qui nous entouraient. Et c'est ça qui nous a donné le goût des choses qui sont grandes, des choses qui méritent d'être servies, des choses devant lesquelles on est prêt à poser le genou et qu'on appelle parfois aussi le sacré.
Oui. Alors vous dites poser le genou, vous revenez à ce thème de la soumission, se mettre en dessous. On pourrait dire également se mettre au service d'eux ou se consacrer à, hein, ou s'orienter profondément vers. Bon. Donc Reza Moghaddassi, je rappelle que vous êtes philosophe, hein, que vous enseignez à Strasbourg. Et je vais citer un autre poète que vous mobilisez, c'est Rumi. Voilà ce que vous rapportez de Rumi. Justement, à propos de ce que vous appelez une percée de l'essentiel. Comment l'âme pourrait-elle ne pas prendre son essor quand, de la glorieuse présence, un appel affectueux, doux comme le miel, parvient jusqu'à elle et lui dit « Élève-toi ». Comment le poisson pourrait-il ne pas bondir immédiatement de la terre sèche dans l'eau quand le bruit des flots arrive à son oreille de l'océan aux ondes fraîches? Comment le faucon pourrait-il ne pas s'envoler, oubliant la chasse, vers le poignet du roi, dès qu'il entend le tambourin frappé par la baguette, lui donner le signal du retour? Comment le soufi pourrait-il ne pas se mettre à danser, tournoyant sur lui-même comme l'atome au soleil de l'éternité, afin qu'il le délivre de ce monde périssable? Vol, vol, oiseau, vers ton séjour natal, car te voilà échappé de la cage et tes ailes sont déployées. Éloigne-toi de l'eau saumâtre, hâte-toi vers la source de vie.
Alors le texte que vous venez de lire évoque véritablement cet appel que l'on peut vivre dans son existence. Alors cet appel, on peut le vivre au contact d'une tradition religieuse, mais on le vit également lorsqu'on écoute une musique et qu'on est ému jusqu'aux larmes. Et là, à ce moment-là, on sent bien que la vérité de notre existence se joue davantage ici que dans un quotidien qui généralement se détourne de la grandeur de la présence à cette vie.
Ce qui est très frappant dans votre livre, et c'est délibéré hein, dès les premiers passages, dès les premières phrases, c'est que exactement comme vous venez de le faire ici, vous essayez immédiatement de traduire les choses dans un langage plus universel, c'est-à-dire dans un langage partageable. C'est un effort que j'ai trouvé magnifique et puis tout à fait crucial aujourd'hui. Hein. En l'occurrence, lorsque Rumi parle de présence, hein, et lorsqu'il invite à l'élévation, eh bien, on peut penser qu'il parle de Dieu et de la présence de Dieu. Mais immédiatement, dans le livre, vous parlez de l'expérience de la présence, hein, comme quelque chose qui vient assouvir notre soif intérieure. Et vous l'expliquez, vous le dites dans des termes qui peuvent convenir aussi bien aux croyants qu'à l'athée. Vous dites,
oui,
il s'agit, par rapport à la présence, j'ai beaucoup aimé votre expression, de se rendre présent à la présence, ou de se rendre attentif à ce qui est présent. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu cela, qui correspond à une véritable expérience de ce qui gît, hein, c'est-à-dire de ce qui repose dans notre intériorité, mais dit dans des termes que chacun peut s'approprier.
Oui, eh bien, peut-être que ce qui est le plus parlant pour comprendre ce que j'essaie de désigner ici, c'est d'abord la rencontre de l'altérité humaine. C'est-à-dire que d'abord, lorsque on rencontre quelqu'un pour la première fois, qu'on la voit, on voit des formes, on voit des qualités, des défauts. Et puis petit à petit, lorsqu'on commence à s'ouvrir à cet autre, lorsqu'on s'ouvre à cette présence, eh bien, cette présence se révèle comme une expérience de l'infini. Aucune formule, aucune définition ne peut enfermer l'autre. Je peux en parler, mais tout ce que je dis sera réducteur par rapport à cette réalité dont je fais expérience. L'expérience de la présence, au-delà de ça, elle commence dans l'expérience de la nature. Dès qu'on est dans la rencontre d'une montagne, d'un rocher, c'est déjà l'expérience d'une certaine présence. Cette présence-là, c'est pas exactement la présence d'un arbre ou d'une fleur. Il y a quelque chose de plus dans le vivant. Et puis, dans l'animal, il y a encore quelque chose, il y a un mouvement, il y a des yeux pour nous regarder, et on fait l'expérience d'une présence. Et puis le regard d'un animal et le regard d'un bébé, c'est encore autre chose. Il y a quelque chose de la présence, il y a quelque chose de la personne qui commence à se manifester à nous. Et là, je citais également cette belle citation de Simone Veil qui disait que finalement, la majorité des gens n'ont pas conscience de la présence et de l'existence des êtres et des choses. Alors, donc se rendre présent à la présence, c'est véritablement s'ouvrir à cette rencontre avec l'infini devant chaque être et chaque chose. Et là, c'est un thème qu'on retrouve chez les grands mystiques persans aussi.
Oui, chez les grands mystiques persans, qu'on retrouve également chez, je dirais, les mystiques de tous horizons. Hein. Quand on dit les grands esprits se rencontrent, c'est notamment dans cette expérience tout à fait singulière que, à certains moments, nous avons l'opportunité de percevoir dans le monde autre chose que ce que nous y percevons habituellement. Et il y a des expériences qui nous parlent de l'essentiel parce que elles semblent nous parler d'un mystère. Vous insistez beaucoup sur la notion de mystère, me semble-t-il. Vous dites par exemple, le mystère qui entoure l'essentiel n'est en rien la preuve d'une illusion ou d'un fantasme. Il n'est pas l'expression d'une misère de l'homme, j'explicite, hein, c'est-à-dire au sens où quelque chose nous échapperait et nous renverrait à la médiocrité de nos organes de connaissance, hein, mais au contraire, ce qu'il appelle à s'élever au-delà de sa misère. Et dans cette élévation au contact du mystère, pour vous, il y a en quelque sorte la quintessence de l'expérience spirituelle. Une quintessence possible de l'expérience spirituelle.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'être humain, parce qu'il est un homme de quelque part, parce qu'il est marqué par la finitude, ne peut appréhender l'absolu, l'infini, l'essentiel, qu'à travers un certain langage, qu'à travers certaines formes, qu'à travers une certaine représentation. Et ce à quoi il est appelé dans son cheminement, c'est à c'est à transcender ces formes, à être capable d'embrasser et d'aller au-delà des formes à travers lesquelles il essaie d'appréhender cet absolu. Et il faut tenir les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce que toute la théologie négative va exprimer à travers l'idée que l'absolu est au-delà de nos représentations, que tout ce qu'on en dit, eh bien, c'est le déformer, c'est projeter sur lui notre réalité humaine. Et d'un autre côté, l'être humain a besoin de passer par des formes, de passer par une culture, de passer par une langue, de passer par une représentation, comme une icône ouverte sur l'absolu. Mais l'icône, c'est pas une idole. Mmh. Et le danger qui guette toujours la tradition religieuse et la conscience religieuse, c'est de transformer l'icône en idole, d'absolutiser ce qui n'est pas absolu.
Mmh. Et alors, ce que vous dites également, c'est que cette rencontre des icônes demande à être une recherche. Hein. C'est-à-dire que vous insistez beaucoup sur le thème de la responsabilité. D'une certaine façon, nous, les êtres humains, on peut dire qu'on n'est pas fait pour attendre le hasard de la rencontre hypothétique d'un moment de grâce ou de quelque chose qui va nous mettre sur le chemin de l'essentiel. Vous dites qu'il y a une vraie responsabilité de l'individu à chercher. Et là encore, sur un mode qui n'est pas directement un mode critique, mais plutôt un mode justement qui appelle à la responsabilité, vous dites qu'il y a chez l'être humain souvent une forme de paresse par rapport à cet appel en nous-mêmes de l'essentiel. Et vous citez par exemple à cet égard un proverbe persan, à propos de celui qui ne veut pas entendre l'appel de l'essentiel. Il est possible, dit ce proverbe, de réveiller celui qui dort, il suffit de l'appeler ou de le secouer, mais il est impossible de réveiller celui qui fait semblant de dormir. Nous aurons beau l'appeler, il finira par grommeler qu'il veut qu'on le laisse dormir.
Ah bah oui, parce que ce qui caractérise l'expérience humaine, c'est la volonté de faire l'autruche, c'est l'oubli, c'est ce que Platon appelait l'oubli de l'oubli. C'est-à-dire que au fond, qu'est-ce que nous dit Platon ? Il nous dit que les hommes ne cherchent pas la vérité. Ne cherchent pas parce qu'ils pensent avoir la science infuse de savoir tout sur tout. Tout le monde n'est pas mégalomane. La majorité des gens ne le sont pas. Mais par contre, chacun est habité par le sentiment qu'il a compris l'essentiel, qu'il a compris la vie. Qu'au fond, d'accord, il n'a pas lu tous les livres des bibliothèques, mais de la vie, on a compris ce qu'il y avait à comprendre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de quête. Pour que la quête se lève, il faut prendre conscience que quelque chose nous manque, que l'essentiel nous manque, qu'on passe à côté de quelque chose d'essentiel dans l'existence. Et c'était le rôle de Socrate par rapport à Platon, c'était d'accoucher l'homme spirituel, d'éveiller le désir.
Voilà, le temps qui aiguillonne le coursier. Hein, on se souvient de cette image platonicienne. Et vous dites quelque chose qui est particulièrement frappant et que j'observe et que je déplore tout autant que vous, c'est que curieusement, tragiquement, du côté d'un certain nombre d'attitudes religieuses et de vies religieuses, on ne sent pas la quête. On ne sent pas la quête, c'est-à-dire que là où il devrait y avoir au centre cette quête qui est vraiment le moteur de la vie spirituelle authentique, on sent au contraire quelque chose qui est de l'ordre de la certitude de Benoît, de la certitude tranquille qu'on a la vérité, qu'il suffit de faire ceci ou cela pour gagner tel ou tel salut, telle ou telle forme de paradis. Et donc on se retrouve avec c'est même pas un paradoxe, c'est une contradiction d'une vie religieuse sans spiritualité parce que c'est une vie religieuse sans quête.
Oui, c'est le paradoxe des traditions religieuses, c'est qu'à la fois c'est un ancrage identitaire fort, alors que la finalité de toute tradition spirituelle, c'est d'arriver à transcender une identité réductrice, une identité limitée, étriquée. Et je pense à cette phrase d'un mystique musulman, Bistami, qui disait « L'impiété de ceux qui aspirent ardemment est plus saine que la foi des indolents. » Et tous ces auteurs qui ont pu traverser ma propre histoire ont cette distance par rapport à cette forme de religiosité qu'on retrouve au cœur de la religion et qui a tendance à la réduire à un refuge. C'est normal qu'une tradition ou une voie quelconque, une voie qui veut aller vers l'essentiel, soit aussi un refuge. mais elle doit d'abord être aussi un chemin de transformation, un chemin dans lequel il y a une place pour le doute, il y a une place pour l'approfondissement de sa propre tradition.
Et un chemin qui est le chemin de l'exigence envers soi et de la construction de soi. Vous l'illustrez très bien en citant un petit texte que j'ai trouvé savoureux, que je vais lire. C'est un conte traditionnel cherokee. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que véritablement, c'est la discussion mondiale entre les sagesses. Et de quoi avons-nous plus besoin aujourd'hui ? Vraiment, je pose la question, plutôt que ce réflexe que nous avons habituellement, même parfois avec toute la bonne volonté du monde, chacun de se replier sur les trésors de sagesse, y compris les plus universels de sa propre tradition. Moi, je veux faire entendre, c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, Reza Mogad Dassi. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à Strasbourg. Je veux faire entendre aujourd'hui cette voix que vous portez d'un philosophe qui est de culture musulmane, de culture occidentale, et qui est capable, de façon très très naturelle et continuelle dans un livre, de se nourrir de façon tout à fait claire et approfondie de toutes les traditions de sagesse de l'humanité, qu'elles soient d'ailleurs religieuses ou philosophiques. Alors pardon pour ce petit aparté, mais je lis ce petit conte traditionnel cherokee. Un vieil homme veut apprendre à son petit-fils ce qu'est la vie. En chacun de nous se joue un combat intérieur, dit-il au jeune garçon. Un combat à la vie et à la mort, qui se tient entre deux loups. Le premier loup est ténébreux. Il est la colère, l'envie, le chagrin, le regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi-même, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, la supériorité, les mensonges, la fausse fierté et l'ego. Le second loup est lumineux. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils réfléchit un long moment. Puis il demande à son grand-père « Quel loup gagne ?» Le vieil homme sourit et lui répond « Celui que tu nourris. » Je vous laisse commenter, Reza.
Oui, ce texte fait écho à un proverbe très célèbre. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. » Ou « Dis-moi ce que tu fais de ce que tu manges, je te dirai qui tu es. » Et en effet, c'est clair que cette histoire invite à interroger de notre nourriture. De quoi est-ce qu'on se nourrit ? Ça fait écho d'ailleurs un texte de Platon aussi, dans le Gorgias, où Socrate dit, bien, regardez, si on vous fait manger quelque chose par terre qui est sale, vous n'auriez pas envie. Et bien, précisément, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas soin de votre esprit comme vous prenez soin de votre corps ? Et c'est vrai que pour entretenir cette soif de l'essentiel, l'être humain doit être très attentif à ce dont il se nourrit. Et alors, se nourrir, ce n'est pas simplement circuler, accumuler les lectures, les rencontres. C'est vraiment creuser, s'imbiber de quelques paroles essentielles, Juste la remarque que j'aimerais faire par rapport à ce que vous disiez juste tout à l'heure, c'est que je ne crois pas qu'une langue donnée, une religion donnée, a besoin des autres. Mais par contre, elle a la totalité en elle. Mais par contre, elle n'a pas à s'approprier la vérité, comme si on pouvait avoir Dieu, comme si on pouvait avoir l'absolu. Elle a à se présenter comme un chemin, un beau chemin, peut-être le meilleur chemin de son point de vue, mais néanmoins, la rencontre avec une autre tradition ne consiste pas à lui apporter quelque chose qu'elle n'aurait pas. La rencontre avec les autres cultures du monde, avec d'autres langues, l'invite à creuser, à approfondir sa propre tradition.
Tout à fait. Et vous dites alors, dans la continuité de ce que vous venez de préciser, quand vous dites que nous sommes ceux dont nous nous nourrissons, dans le livre, vous conduisez une critique de ce qu'il faut bien appeler la crise spirituelle de notre époque, parce que vous posez directement la question de la qualité de nos nourritures. Vous interrogez à un moment dans le livre, vous posez la question suivante, qui sait encore ce qu'est un sage ou un saint ? Et vous réfléchissez de façon critique sur ce que l'on offre aujourd'hui à l'admiration des foules, sur la médiocrité des modèles qu'on offre à l'admiration des foules. Est-ce que aujourd'hui, dans notre culture commune, il y a quelque chose comme une soif spirituelle, le sens, ou le goût plutôt, le goût, hein, disons-le de façon sensible, le goût d'une soif spirituelle qui est communiquée, ou bien est-ce que l'individu contemporain est gavé de tout un ensemble de modèles et de désirs vains, hein, qui relèvent de ce que Pascal appelait le divertissement? Il y a véritablement aujourd'hui dans notre société une crise des nourritures spirituelles. Où les trouver?
Alors, oui, disons que dès qu'il s'agit d'analyser notre époque, il y a toujours un contraste, il y a toujours deux mouvements inverses. Voilà. D'un côté, il y a quelque chose de désespérant, il y a quelque chose de qui en effet dans la transmission dans notre société relève d'une véritable crise spirituelle. Jamais cette dimension n'est évoquée. Nos jeunes grandissent et on sait le poids de la dimension mimétique et le fait de n'avoir aucun modèle de sagesse, aucun modèle spirituel. Ça, c'est à la fois désolant. Et en même temps, cette soif existe et jamais aucune époque n'a à sa disposition autant de... mis en lumière autant de richesses de toute cette tradition mondiale. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'exaltant en même temps dans notre époque parce que ces rencontres, cette ouverture et cette démocratisation aussi d'un discours plus ouvert sur la dimension spirituelle et un petit peu moins
stéréotypé ou voilà, moins cloisonné.
Moins cloisonné. Donc je dirais que voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une aspiration qui est là. Je le sens à travers mes élèves lorsque je fais cours à des jeunes de 18, 19, 20 ans. Et en même temps, c'est clair que ce n'est pas le vocabulaire des mondes anciens qui leur parle le plus. Il faut trouver un nouveau langage.
Alors, nous sommes dans cette situation paradoxale, un peu rageante à court terme ou à moyen terme, que, comme vous le dites, nous avons aujourd'hui à notre disposition à peu près tous les textes. Tous les livres sont ouverts, hein, potentiellement devant nous. Votre livre, Reza Moghaddassi, je cite à nouveau son titre, La soif de l'essentiel, en donne un bel exemple. Nous sommes dans cette situation de culture mondialisée aujourd'hui, hein, d'une mondialisation donc qui n'est pas que pour le pire, mais qui peut être pour le meilleur, de l'accès qui nous est donné, comme dans votre livre, à des sagesses de tous horizons et dont vous montrez très fortement la convergence à la condition d'exprimer ce qu'elles disent dans un langage qui est suffisamment universel. Et en même temps, il y a quelque chose, donc je le disais, qui est un petit peu rageant, c'est que tout se passe comme si nous ne nous saisissions pas de cette opportunité. Et nous continuons aujourd'hui, ne serait-ce qu'à l'échelle française, de nous opposer au nom de nos identités, de nos appartenances. Nous n'arrêtons pas, hein, et nous ne savons pas faire autre chose que de rappeler tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous divise, tout ce qui nous différencie, alors que nous aurions, pour la première fois dans l'histoire, immédiatement à notre disposition, de façon complètement démocratique, il suffit d'ouvrir Internet, une inspiration possible du côté de ces sagesses qui nous parlent de choses qui sont essentielles véritablement pour devenir plus humains, pour apprendre à la fois, vous le dites dans le livre, à nous élever et à creuser en nous-mêmes. Et collectivement, nous n'arrivons pas encore à nous en saisir.
Oui, c'est ça. Alors, moi, dans ce livre, je n'ai pas voulu proposer une voie. J'ai essayé de me situer en amont de toute voie qui prétendrait, qu'elle soit religieuse ou non religieuse, qu'elle soit athée ou croyante, toute voie qui prétendrait conduire à l'essentiel, j'essaie de trouver quelles sont les conditions minimales sur lesquelles on peut s'entendre. Ce que j'ai appelé une éthique existe essentielle. Qu'est-ce que toute voie qui prétend nous conduire à l'essentiel, que ce soit, j'ai certains amis qui conçoivent ce chemin à travers l'art, ou que ce soit à travers d'autres formes, qu'est-ce qu'une voie qui prétend nous conduire à l'essentiel, quel est le minimum qu'on peut attendre d'elle? Et ce minimum-là, j'essaie de montrer que ce n'est pas simplement une morale kantienne. Non, il y a une vraie éthique spirituelle qui se dégage de toute personne qui tente ce chemin vers l'essentiel.
Et cette voie qui se tente et qui commence de se trouver dans un certain nombre d'expériences de ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'une certaine qualité de présence de l'être. Hein, il y a quelque chose dans certaines expériences qui tout d'un coup émerge du brouillard. Vous dites, pour reprendre et préciser encore ce que vous venez de dire là, vous dites dans le livre, ce livre ne prétend pas dire ce qu'est l'essentiel, et il ne vise nullement à proposer une voie universelle qui transcenderait tous les clivages et toutes les croyances, Au contraire, il cherche à apporter différents éclairages sur la soif qui habite tout homme et sur les conditions minimales pour y répondre. Il s'agit en somme de dégager les points sur lesquels peuvent s'entendre tous les chercheurs de l'essentiel. Et je répète ce que je disais tout à l'heure parce que c'est, à mon sens, particulièrement crucial. J'aimerais vous faire réagir là-dessus, Reza Moghaddassi, si vous le voulez. Je trouve qu'il est particulièrement important aujourd'hui dans notre société que ce soit, comme vous, des hommes ou des personnes, des femmes, des hommes, des personnes de culture musulmane qui attirent l'attention générale sur le fait que nous avons aujourd'hui une responsabilité collective qui est de nous remettre en face de l'essentiel et de reprendre en charge collectivement la question de l'essentiel sans nous enfermer à nouveau dans des querelles de chapelle.
Tout à fait. Et en même temps, voilà, la démarche consiste à ne pas prendre un point de vue surplombant au-dessus des religions, au-dessus des traditions, comme si on les avait dépassées, comme si en tant que philosophe, on avait atteint leur substantifique moelle et que, comme si on pouvait s'en passer. C'est pas du tout ma démarche. Moi-même, est-ce un préjugé de ma part? J'ai du mal à voir comment ce cheminement vers cette éthique minimale, cette éthique spirituelle que je décrivais, comment c'est possible de le faire sans passer par toute la profondeur, la subtilité des pratiques, des exercices, des symboles, des rituels d'une tradition religieuse. Et c'est, je le disais dans la conclusion, c'est, j'ai écrit ce livre contre ce préjugé, c'est-à-dire en partant du principe que peut-être que, voilà, à travers d'autres modes que ce qui m'a apparu à moi dans mon histoire, ne pouvoir passer que par une tradition spirituelle, peut-être qu'il y a d'autres possibilités.
Un ancrage et une élévation. من شدا مسك يفوح نور الخير الرسل احمد لحفي عليا فرطا نور الخير الرسل احمد لحفي عليا فرطا نور الخير الرسل احمد لحفي عليا فرطا نور الخير الرسل احمد On écoute le grand Munshid Hassan Afar, qui est le grand muezzin à la grande mosquée des Omeyyades d'Alep. À son propos, le musicologue Bernard Moussali a dit un jour « Il nous invite à la voyance intérieure, à la catharsis des cœurs et à la sublimation des passions. » Toujours une ode au prophète Mohammed. Habitant du temple divin, étreins-moi de ton généreux amour ou rends-moi visite en rêve. Tu t'éloignes, mais mon cœur ne s'éloigne pas de ton amour. Tu t'absentes, mais tu restes présent dans mon âme. Existe-t-il pour mon mal un autre remède que toi? Sans toi, le monde n'est que misère, car je ne suis qu'une créature pauvre. Mon jour de fête est lorsque je serai auprès de toi. يا عيني يا 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 ليلي يا ليلي يا يا ليل الشعب اليماني الله بحقكم صلوا أمروا طيف الخيال يزوروا La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y trouve. C'est une phrase de Rumi. C'est une phrase de Rumi que j'ai trouvée dans le livre de Reza Moghaddassi. Reza, vous vous en souvenez de cette phrase que vous avez citée?
Oui, cette phrase, je crois, fait assez écho à cette vérité universelle qui transcende les clivages et les limites et les formes du monde du devenir, du monde de la multiplicité, du monde dans lequel il y a multiplicité de langues aussi. Elle fait écho à une phrase d'Ibn Arabi qui est très célèbre dans les Chatons de la Sagesse où il dit « Dieu est trop vaste et trop immense pour être enfermé dans un credo à l'exclusion des autres ». Ou bien on peut penser à ce passage dans le grand œuvre de Rumi que les Persans appellent Maulana et que les Turcs appellent Mevlana.
Notre maître.
Voilà, notre maître, dans lequel il y a un dialogue entre Moïse et un berger. Et le berger est en train de prier Dieu en utilisant des termes très humains. Alors Moïse le reprend et le fustige. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui se met en colère contre Moïse. Et il lui dit, pourquoi es-tu éloigné de moi, mon serviteur? Es-tu venu pour unir ou bien pour désunir? Évite la séparation autant que faire se peut. Rien n'est plus détestable que le divorce à mes yeux. À chacun, j'ai donné une manière d'être. J'ai donné à chacun une façon de dire. Ce qui pour lui est louange, pour toi est un blâme. Ce qui pour lui est miel, pour toi est un poison. Moi, je suis au-delà de la pureté et de l'impureté, au-delà de la paresse et de la diligence. Mes commandements ne servent pas mes intérêts. Ils sont l'expression de ma générosité. Les Indiens me louent dans la langue de l'Inde. Les gens du Sindh me louent dans la langue du Sindh. Ce n'est pas moi que leur louange purifie. Ils se purifient eux-mêmes et leurs mots deviennent perles. Alors voilà, ces textes font véritablement écho à ce qui dans cette vision d'unité transcendante des traditions religieuses qu'on retrouve chez des auteurs du XIIe siècle. Mmh. C'est pas des modernes relativistes, non. C'est véritablement cette conscience qu'il y a chez ces mystiques musulmans d'Andalousie ou d'Iran ou d'Asie centrale, qu'il y a quelque chose qui transcende les représentations que se font les hommes de l'absolu.
Merci beaucoup, merci Reza Moghadassi. Merci, et pour conclure, sans conclure, voilà ce que dit aussi le grand mystique musulman Junaïd. Il dit « La couleur de l'eau est celle de son récipient ». C'était Culture d'Islam avec Reza Moghadassi pour La soif de l'essentiel. C'est paru chez Marabout en 2016. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez trouver sur le site de l'émission toutes les références du livre et les références musicales qui nous ont accompagnés aujourd'hui. En particulier ce qu'on écoute, hein, qui a été la ponctuation musicale du jour, Hassan Afar et les Munshid d'Alep. Voilà, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, Vincent Abouchard tout d'abord à la technique. Je remercie également Dominique Compétissa pour la production de l'émission. Dans quelques instants, vous retrouvez Louise Touré pour la rue des écoles.